Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Dieu ne vient pas dans le monde avec des proclamations retentissantes, il ne se manifeste pas dans la clameur, mais il commence son chemin dans l'humilité. Ce sont les mots du pape au cours de son audience générale hebdomadaire. Encore indisposé par une bronchite, François a confié la lecture de son texte à l'un de ses collaborateurs. Nous en parlerons dans l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi en Guinée-Conakry, au Tchad. Dans l'actualité sociale et politique africaine, nous parlerons du prochain sommet annuel de l'Union africaine qui désignera un nouveau président de sa commission. Ce sera avant de suivre Charles Thibault, spécialiste en sciences politiques, sociologie, géopolitique des nouvelles technologies, qui nous indique les défis à relever à travers l'intégration de l'IA. Charles Thibault qui a pris part au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui s'est tenu à Paris. Nous conclurons cette édition avec Armand Toubouy, artiste plasticien ivoirien, spécialiste en art religieux qui a bien voulu nous partager son expérience des confections d'objets de piété. C'est en prélude au jubilé des artistes qui aura lieu à Rome et au Vatican du 15 au 18 février. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Fabrice Baguendéquéré.
Au cours de son audience générale hebdomadaire, le pape a poursuivi ce mercredi matin son cycle de catéchèse sur l'enfance du Christ. Encore indisposé par une bronchite, François a confié la lecture de son texte à l'un de ses collaborateurs, un texte dans lequel il a rappelé aux fidèles combien l'annonce de la venue de Jésus commençait dans l'humilité à travers l'annonce au berger, premier témoin de la nativité. Les précisions d'Olivier Bonnel.
En relatant la naissance de Jésus, Luc nous expose l'humilité d'un Dieu qui vient dans l'histoire et ne bouleverse pas les structures du monde, mais veut les éclairer et les recréer de l'intérieur. Si l'ange Gabriel avait annoncé la naissance de Jésus, roi messianique, sous le signe de la grandeur, c'est bien dans la maison du pain, la signification du nom de Bethléem, que Jésus est né. Sa naissance, a relevé le pape, est totalement inédite pour un roi. Le Fils de Dieu ne naît pas dans un palais royal, mais bien dans une mangeoire. Luc nous montre ainsi que Dieu ne vient pas dans le monde avec des proclamations retentissantes, qu'il ne se manifeste pas dans la clameur, mais qu'il commence son chemin dans l'humilité, a expliqué François. Et ce sont les bergers, humbles parmi les humbles, qui sont les destinataires de la plus merveilleuse nouvelle qui ait jamais retenti dans l'histoire, celle du salut qui est donné aux hommes. En concluant sa catéchèse, le pape a invité les fidèles à demander au Seigneur de savoir discerner dans la faiblesse la force extraordinaire de l'enfant Dieu, celle qui vient renouveler le monde et transformer nos vies avec son dessein plein d'espérance pour l'humanité tout entière.
Une condamnation sans appel des expulsions massives des migrants et un encouragement à l'Église des États-Unis dans son travail au service de la dignité humaine. Dans une lettre adressée hier aux évêques américains, le pape François s'inquiète des effets de la politique migratoire de la nouvelle administration américaine et réaffirme les principes d'un état de droit véritable. Une lettre qui a provoqué de nombreuses réactions, à commencer par celle de l'Église américaine par la voix du cardinal archevêque de Chicago, Blaise Schultz.
J'apprécie profondément le témoignage prophétique du pape François. Le Saint-Père a clairement identifié pour les évêques et l'Église des États-Unis la protection et la défense de la dignité des migrants comme la première urgence du moment. Je lui suis reconnaissant d'avoir encouragé les évêques qui ont critiqué les déportations massives et aveugles et la criminalisation des migrants, ainsi que d'avoir invité tous les évêques à marcher ensemble et à défendre la dignité humaine des immigrés dans notre pays.
En Guinée-Conakry, un premier pèlerinage vers Ouro, un lieu chargé d'histoire pour l'église guinéenne et qui abrite l'une des premières grottes mariales de Guinée. Ils étaient plus de 700 pèlerins venus des différents diocèses de la Guinée et des environs. Les précisions de Johanita Scolastica.
Cette première édition ayant pour thème « Souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu et imitez leur foi » dans Hébreux 13, verset 7, a connu la participation de près de 700 pèlerins venus des diocèses de la Guinée et du Sénégal. Il a pour but d'évangéliser les habitants qui peuplent cette localité. L'accès difficile a été le premier défi majeur rencontré. L'archevêque métropolitain de Conakry, Mgr Vincent Koulibaly, en compagnie de l'évêque du dit diocèse, Mgr Moïse Tengiano, a pendant la messe de clôture déclaré que
« En devenant les imitateurs de nos premiers missionnaires, nous ne devons pas oublier qu'ils ont aimé notre pays et ses habitants jusqu'à l'amour extrême, c'est-à-dire le don total d'eux-mêmes. Il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous a dit le Christ. Et ce sont leurs tombes ici à Ourous et dans beaucoup de paroisses de notre pays qui constituent pour nous aujourd'hui les signes concrets de ce grand amour pour nous et pour notre pays.
C'est sur cette note d'espérance que les fidèles retournent dans leur localité. Juanita Scolastique, Conakry, pour Radio Vatican.
Et au Tchad, dimanche, entre clôture de la mobilisation et de la collecte pour l'enfance missionnaire 2025 dans la préfecture apostolique du Mungo et ouverture de l'année jubilaire de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita d'Atron 1 dans l'archidiocèse d'N'Djamena, les ordinaires des lieux ont célébré des eucharisties pour marquer ces événements. En N'Djamena, Edouard Takadji.
À la paroisse Saint-Charles Borromée, ce sont les enfants des différents mouvements de l'apostolat des enfants qui se sont retrouvés pour cette eucharistie, marquant ainsi la fin de la mobilisation et des collectes pour l'enfance missionnaire 2025. À travers ces différentes collectes organisées dans les mouvements, dans les communautés ecclésiales de base, ainsi que dans les écoles et collèges, les enfants de l'église Famille de Dieu qui est en N'Djamena viennent ainsi à travers ces gestes aider les autres enfants à travers le monde. Dans son exhortation lors de cette eucharistie, l'évêque de la préfecture apostolique de Mungo, Mgr Philippe Abouchen, invite les enfants à être attentifs à l'écoute de la parole de Dieu et répondre à son appel.
Dieu appelle tous les hommes pour être ses messagers. Il vous a appelé chacun par son nom pour être son messager. Dieu appelle qui il veut, comme il veut. Il appelle un vieux, Abraham, était déjà âgé et il l'a appelé. Mais il a appelé aussi des jeunes.
En lançant du côté de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita d'Atron 1 l'année jubilaire, l'archevêque métropolitain de N'Djamena, Mgr Edmond Ditanga, invite les fidèles de son diocèse à annoncer l'évangile sans crainte et s'engager dans la vie de leur pays et non rester comme des observateurs.
Engageons-nous. Ne soyons pas des spectateurs de la vie sociale, de la vie nationale, de la vie politique. Soyons des acteurs. Nous avons l'Esprit Saint avec nous. Nous avons la force de Dieu avec nous.
Edouard Takadji N'Djamena pour Radio Vatican.
Autre nouvelle, la Commission des épiscopats de l'Union européenne exprime sa profonde tristesse et son inquiétude face à la situation qui prévaut à Goma. Dans un communiqué publié mercredi matin, le président de la COMES exhorte l'Union européenne et la communauté internationale à prendre des mesures immédiates pour assurer la cessation des hostilités, le respect absolu de la dignité humaine et du droit international. Mgr Mariano Crociata demande que l'accès humanitaire soit garanti sans restriction aux zones de conflit et que les civils, en particulier des femmes et des enfants, soient protégés contre la violence et l'exploitation. Place à présent à l'actualité sociale et politique sur le continent. Les chefs d'État africains se réunissent ce week-end à Addis Abeba pour le sommet annuel de l'Union africaine qui désignera un nouveau président de sa commission en pleine escalade du conflit en République démocratique du Congo, une crise qui s'ajoute à une longue liste de défis à relever pour l'UIA. Le nouveau chairman succédera au Tchadien Moussa Fataki Mahamat, qui a atteint la limite des deux mandats pour ce rôle exécutif. Trois candidats se disputent le poste tournant de plus haut représentant de l'organisation panafricaine, réservé cette fois à un représentant de l'Afrique de l'Est. Le ministre des Affaires étrangères djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, l'opposant kényan Raila Odinga et l'ancien ministre des Affaires étrangères malgache Richard Randria Mandrato. Et au sujet de l'Est de la République démocratique du Congo, des affrontements entre l'armée et les M23 alliés à des troupes rwandaises ont repris, mettant ainsi fin à une courte accalmie qui avait suivi un appel à cesser le feu des dirigeants africains. Les combats ont été signalés à environ 70 km de Bukavu. 10 000 soldats burundais ont été envoyés dans la région pour soutenir l'armée congolaise. Pendant ce temps, au Nord Kivu, les rebelles mettent en place leurs administrations. À Goma, Augustin Mossangwe.
Sur l'axe Bukavu, le cessez-le-feu demandé par la SADC et les AC ne semblait pas faire l'unanimité. Les affrontements ont repris en début de semaine, situation qui met la ville de Bukavu en peur, craignant une avancée des rebelles. Pendant ces temps à Goma, les nouvelles autorités nommées installent leur administration. Le nouveau maire de la ville de Goma a rappelé lundi les militaires, policiers et combattants Wazalendo de se rendre et aux civils hébergeant cette catégorie des gens et ceux qui auraient ramassé des armes et autres effets militaires de les rendre. Un délai de 7 jours a été donné quant à ceux. Le gouverneur du Nord Kivu, nommé par le M23, a lui fait plusieurs annonces. Après la mise en place de son cabinet, le nouveau patron du musée de Himbi a annoncé l'ouverture du poste frontalier entre la RDC et le Rwanda entre 6h et 22h. Il vient de convoquer ce mercredi les responsables des banques et autres structures financières pour une réunion de travail afin de mettre en place la relance économique dans la ville de Goma. Goma, Augustin Monsengue pour Radio Vatican.
La France a accueilli mardi 11 février à Paris le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, sommet qui a donné lieu à des multiples annonces d'investissements et de coopération internationale pour accompagner le développement de cette technologie qui a bouleversé des pans entiers de la société depuis 2 ans. Le chercheur Charles Thibault, spécialiste en sciences politiques, sociologie, géopolitique des nouvelles technologies, indique les défis à relever à travers l'intégration de cette technologie. On l'écoute.
Même s'il faut mettre de côté ce qui est l'enjeu réel derrière ce développement d'intelligence artificielle, et puis le discours, la rhétorique, on entend encore parler de ce moment Spoutnik, qui est en référence finalement au lancement du premier satellite artificiel par la Russie en 1957. Il faut évidemment raison garder, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aussi un discours qui est là pour mobiliser tout un système productif technoscientifique, de sorte en fait de recréer de la croissance, de l'emploi, dans une situation finalement de crise économique chronique. Donc il y a ce côté un petit peu performatif côté américain, c'est-à-dire on essaie d'inciter les acteurs finalement à investir davantage dans cette technologie en pensant que ça créera effectivement de l'emploi et de la croissance. Après il y a un second niveau de lecture qu'il faut avoir, c'est qu'il y a une sorte de fantasme qui s'est emparé des esprits des dirigeants politiques et économiques mondiaux, selon lequel en fait celui qui, d'ailleurs selon le terme qu'on connaît bien, de la phrase qu'on connaît bien de Vladimir Poutine, celui qui deviendra leader en intelligence artificielle sera le maître du monde. Et je crois qu'il faut en fait prendre cette phrase pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un fantasme, avec l'idée qu'effectivement, celui qui parviendra au plus haut degré de sophistication de l'intelligence artificielle, eh bien réussira dans tous les domaines à devancer et à subjuguer éternellement tous ses rivaux. Et ça, effectivement, quand vous avez ce fantasme en tête, le développement de l'intelligence artificielle devient effectivement une priorité nationale.
Qu'est-ce que vous entendez par fantasme ?
Vous avez des intérêts économiques derrière, c'est-à-dire que, en gros, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée que on va atteindre des gains de productivité dans tous les secteurs d'activité humaine extraordinaires par une substitution généralisée des machines aux êtres humains. Et donc, évidemment, quand vous avez ça en tête, en fait, tous les acteurs économiques, par exemple de la planète, sont extrêmement friands de ce fantasme parce que ça veut dire que vous allez pouvoir vous passer de main d'œuvre. Et la main d'œuvre, ça a toujours été dans l'histoire économique, dans l'histoire du capitalisme, même en fait, la pierre, le caillou dans la chaussure de tout investisseur, de tout entrepreneur. Donc là, on vous promet que finalement, vous n'aurez plus besoin de main-d'œuvre pour produire. Et en plus de ça, vous aurez des machines qui, d'une part, coûteront moins cher et seront beaucoup plus performantes. Bon, ça, c'est effectivement un vecteur de fantasme extrêmement puissant. Et puis, du côté des États, vous avez un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans un paradigme austéritaire en termes budgétaires. Et donc, l'idée qu'on puisse se passer de fonctionnaires et qu'on puisse les remplacer par des machines qui coûteront moins cher et qui seront plus performantes, là aussi, ça fait son chemin dans la tête des dirigeants politiques du monde entier. Il faut avoir tous ces éléments en tête pour comprendre en fait la dimension fantasmatique derrière cette course à l'intelligence artificielle.
Propos recueillis par Alexandra Sirgan. Après les jubilés du monde de la communication et celle des forces armées, l'Église s'apprête à vivre le 3e événement thématique de l'année sainte, celui consacré aux artistes, qui aura lieu du 15 au 18 février à Rome et au Vatican. En prélude à cet événement, Armand Touboui, artiste plasticien ivoirien, spécialiste en art religieux, a bien voulu nous partager son expérience de confection d'objets de piété, une expérience d'une 20aine d'années maintenant. Il commence par nous indiquer ce que lui inspire l'année jubilaire.
Le jubilé, c'est chaque 25 ans. Alors, pour moi, c'était un temps d'arrêt pour dire merci à Dieu, mais aussi de se projeter à nouveau dans notre marche à la suite du Christ en tant que pèlerin vers le royaume de Dieu.
Que pourrait représenter l'année jubilaire pour des artistes comme vous?
Alors, ce que je voudrais dire à ce sujet, l'iconographie ou l'art religieux en général fait partie des moyens d'évangélisation. En tant que chrétiens, nous sommes prêtres, prophètes et rois. L'évangélisation, donc, faisant partie du prophétisme, l'art religieux nous permet de faire passer le message du Christ, d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, cette année, jubilaire représente pour nous, artistes plasticiens ou artistes religieux, une opportunité de rapprochement avec le Seigneur afin d'annoncer ses bienfaits à travers notre art, à travers ce que nous faisons.
À quoi faut-il faire allusion en parlant d'art religieux?
Alors, pour parler d'art religieux, j'ai fait des grottes mariales, j'ai fait des tableaux, j'ai fait la sculpture, la représentation des images, des scènes de notre église, des icônes qu'on connaît. J'ai fait aujourd'hui, par pure grâce, j'ai fait aussi les tenues liturgiques, les chasubles, aubles. Je m'inscris dans tout ce qui est religieux. Tant que par inspiration, Dieu me donne de faire, de reproduire quelque chose, je suis prêt. En ce qui concerne la sculpture, c'est de tailler, soit dans une pierre, soit dans du bois. Mais je veux dire, de représenter une image qu'on a en face.
Alors, dites-nous, comment êtes-vous arrivé à l'art religieux?
Comment je suis arrivé à ça, c'est vraiment, vraiment spécial parce que je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas vraiment fait d'école d'art plastique. Alors pour moi, je veux dire, c'est par inspiration divine. C'est un don, c'est pour ça que je dis merci toujours à Dieu. Alors j'ai toujours rêvé, quand j'étais tout petit déjà, d'être un communicateur. Mais finalement, c'est quand je me suis retrouvé au Sanctuaire Marial National d'Abidjan, l'idée m'est venue de reproduire la Vierge Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce. La statue de Notre-Dame d'Afrique, Mère de toute grâce, elle est située dans la cour du Sanctuaire Marial National d'Abidjan. Elle est en hauteur, elle mesure 11 mètres exactement, 11 mètres de hauteur. Ce jour-là, à ses pieds, au Sanctuaire Marial, c'est comme ça que, dans mes prières, dans le calme, dans le silence, l'Esprit me demande de reproduire la Vierge que j'ai en face de moi.
Ça a été le déclic.
Tout de suite, j'ai eu confiance, en fait, parce que déjà, comme je faisais la sculpture, tout de suite, j'ai eu confiance, en fait. J'ai eu confiance parce que j'ai dit, mais attends, je peux la reproduire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à reproduire cette Vierge-là quand je suis rentré à la maison. Et naturellement, les débuts n'étaient pas faciles. C'était pas bien reproduit. Et c'est comme ça, en proposant ça aux gens, parce que je voulais tellement partager ce que Dieu me donne, hein, Dieu me fait comme grâce, je voulais tellement partager ça avec les gens, que le recteur d'alors, le père Yapi Mathieu, a vu la statue et il m'a fait appel pour dire que bon, c'est pas bien fait. Je suis d'accord que tu la reproduises, hein, la Vierge, mais il faut bien la faire. Si tu veux, tu peux venir au sanctuaire, tu peux dormir là si tu veux, à ses pieds, et puis bon, voilà, tu travailles. Quand il m'a donné la force, j'ai eu le temps de venir m'asseoir au pied de la Vierge et de passer vraiment mon temps, de passer des journées à la regarder, à prier, à parler avec elle, à lui demander de m'aider à la reproduire. Et c'est comme ça qu'elle m'a donné assez de force pour pouvoir la reproduire de sorte que chacun, en étant en miniature, chacun puisse la voir à la maison. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et puis bon, le premier spécimen s'est fait voir avec la communauté des marianistes qui m'ont donné donc l'exclusivité de la reproduction. Voici un peu comment ça s'est passé. J'ai dit merci à Dieu de cela, toujours.
Armand Touboui, artiste plasticien ivoirien, spécialiste en art religieux, il répondait aux questions de Françoise Niamien. La suite de cet entretien vous sera proposée dans nos prochaines éditions.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Fabrice Baguen-Ekéré qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.
Quand le cœur est blessé, quand la vie est brisée, quand on est déchiré, est-ce possible d'aimer? Quand on est bafoué, que l'on est rejeté, quand on est méprisé, est-ce possible d'aimer? Oui, c'est possible.